With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un énorme programme dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, des résultats Sony assez stratosphériques, des impressions sur Redfall qui sont un petit peu à l'opposé, et plein d'autres jeux comme Stray Lights ou Age of Wonders 4, et plein d'autres choses du genre. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Très heureux de vous accueillir à nouveau avec deux co-animateurs absolument incroyables. J'ai l'immense plaisir de revenir quelqu'un qui a maintenant sa table hein, dans le coin. Il fait partie des abonnés réguliers de l'émission. Thomas Mehrer, alias Crevette, alias Amaebi. Bonjour, comment vas-tu Thomas ?
Salut Patrick, salut tout le monde. Ben, ça va super bien. Je me sens un peu exsangue après un week-end laborieux, mais super en forme. Il fait très beau et puis ben, surtout on arrive, ça y est, dans le printemps calypse du jeu vidéo. On va tous mourir mais ça va être super.
Alors écoute, le printemps calypse, tu vas pouvoir nous parler d'un jeu qui est surprenant, Redfall. Est-ce que tu pourrais, un petit teaser, tu vois, nous dire un mot, en un mot, un truc sur Redfall, un mot
Alors, deux mots, je triche, Ubisoft 2010, voilà.
Écoute, on va attendre pour en savoir un petit peu plus. On a également avec nous Pierre Trouvé. Comment vas-tu Pierre ? C'est ta quoi, deuxième, troisième participation, je crois, au rendez-vous jeu ?
Bonjour Patrick, salut à tous. Oui, c'est ma troisième participation, je pense.
Tu nous as... Le Monde t'a laissé venir faire des bêtises avec nous en podcast, donc je suis très reconnaissant pour ta présence. Merci beaucoup Pierre. Toi, tu vas notamment nous parler de Age of Wonders 4. Je vais t'avouer un truc. Tu m'as dit « Ah ouais, je joue à Age of Wonders, c'est bien, machin. » J'ai regardé... Enfin, j'ai imaginé ce que c'était, je me suis dit... Encore un truc qui va pas, qui est pas pour moi quoi. Puis je suis allé voir le trailer, mais en fait ça a l'air très très cool, Age of Wonders. Ça a l'air, on va en parler tout à l'heure. Mais je crois que tu me fais découvrir des choses là. Donc un grand merci pour ta présence également, Pierre.
Merci de l'invitation.
On va immédiatement se lancer parce que le programme est chargé. Juste un petit mot pour remercier le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, l'un des patriotes qui a trouvé le niveau secret de soutien sur patreon.com/rdvjeu. Merci beaucoup à toi Steph, merci de ton soutien et de ta fidélité. Je pense que c'est grâce à lui que cet épisode existe spécifiquement puisqu'il est producteur, il est venu regarder les notes, il a mis des corrections, tout ça. Donc merci beaucoup Steph, je plaisante. Hein. Mais merci beaucoup Steph pour ton soutien renouvelé. Et on continue donc avec la première partie, les infos importantes à retenir. Alors, dans les infos, on va faire deux trucs. Premièrement, les résultats de Sony, qui sont intéressants à étudier. Et d'autre part, on va faire un truc que je ne fais pas souvent. On va mettre dans les infos à retenir un test de jeu. Généralement, moi, vous savez, j'aime bien que je suis un petit peu le Marie Kondo du podcast. J'aime bien que les choses soient à leur place. Et les jeux, c'est dans les jeux. Ce n'est pas dans la partie info. Mais là, ça a des conséquences tellement importantes sur une partie de l'industrie, je crois, que ça va être dans la partie news. Mais avant ça, donc, les résultats de Sony qui sont, est-ce qu'on peut dire stratosphériques, possiblement ? Alors, peut-être pas stratosphériques, mais qui sont excellents. On a, d'une part, beaucoup d'argent, des revenus qui sont de 29 milliards de dollars, qui sont en augmentation de genre deux tiers d'une année sur l'autre. Le truc qui est intéressant à noter, évidemment, c'est que la PlayStation se vend beaucoup. se vend très très bien, et on a Oscar Le Maire qui nous a fait un petit flux Twitter comme d'habitude sur les résultats de Sony. Il s'est vendu sur le trimestre qui vient de s'écouler, donc le premier trimestre de l'année, 6,3 millions de PlayStation 5. C'est le plus gros chiffre de vente de consoles de l'histoire sur ce trimestre. Alors évidemment, ça, comme les autres chiffres, sont colorés par le fait que bah, y avait la pénurie et tout à coup, depuis quelques mois, il est possible d'en trouver. Et donc, ça fait une accélération des ventes qui est notable. Mais il n'empêche, on atteint aujourd'hui une quantité de consoles sur le marché qui est de presque 40 millions. Et comme le dit Oscar, là encore, c'est à durée égale, elle fait mieux que la Switch et elle rattrape la PS4. Ça, c'est une donnée qui m'intéresse toujours, c'est combien de consoles il y a sur le marché aujourd'hui. C'est pas juste pour le plaisir de comparer le nombre de consoles pour voir qui a la plus grosse, mais c'est parce que ça a évidemment une conséquence sur l'attractivité de la plateforme, la réussite de la plateforme pour le constructeur, et puis l'attractivité de la plateforme pour les développeurs et donc pour les joueurs, etc. Alors, la dynamique ne va pas forcément continuer avec une telle accélération puisque, comme je le disais, ça vient après une pénurie. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui en voulaient une au même moment qui l'ont achetée quand elle est devenue disponible. Mais il n'empêche, grosse réussite là sur ce trimestre. Et puis, dépasser la Switch. Alors, encore une fois, il y a des histoires de décalage de moment de lancement quand on prend en compte la période de Noël, etc. Ça ne veut pas dire qu'il va s'en vendre plus au final que de Switch. Ça me paraît même très peu probable. Mais c'est un résultat qui est impressionnant pour la PlayStation 5, surtout quand on compare aux résultats de Microsoft qu'on avait la semaine dernière, avec moins 30% par rapport à la période précédente, enfin à la période sur l'année précédente. En tout cas, ça va bien pour Sony. Je pense qu'on peut être, on peut se mettre d'accord sur cette analyse. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les résultats de Sony ? Thomas ou Pierre, n'hésitez pas.
Bah c'est l'effet PSVR 2, tout le monde s'est jeté sur la PS5. Du coup. Non, mais comme tu le dis, bon, c'est des chiffres qui sont effectivement impressionnants à prendre avec des pincettes et avec ce trompe-l'œil effectivement de cette pénurie qui, je pense, effectivement, il y a un effet de frustration et avec cette arrivée massive de stock qui fait qu'il y a un boom des ventes et qui fait tout exploser. Oui, c'est effectivement impressionnant. Ça donne une bonne dynamique pour la plateforme. Et surtout, effectivement, en contrepoint, on voit derrière les chiffres de Microsoft et ça, c'est assez douloureux pour eux. Mmh. Et le thread d'Oscar est assez intéressant. Il y a aussi les chiffres des revenus générés par les DLC et les microtransactions qui laissent un peu pantois, qui fait un peu peur sur l'avenir du jeu vidéo quand même, parce que je crois que c'est 30%, c'est la deuxième source de revenus ça, pour Sony vient des DLC et des microtransactions. Donc voilà, cash machine derrière cet aspect-là, mais je crois qu'il y a des bouteilles de champagne, il y a des bouchons qui ont dû sauter ces dernières semaines chez Sony, c'est clair.
Effectivement,
des DLC et microtransactions. Moi, je le mets en parallèle avec le marché du jeu PC en France. En fait, c'était l'une des principales sources de croissance l'année dernière, selon le SEL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Hein. Après, c'est la profession qui raconte ça. Et je trouve ça intéressant que ça se calque, entre guillemets, ça se retrouve dans le jeu console. En fait, on voit vraiment une sorte de. On casse un peu les frontières, et sachant que Sony a racheté Bungie il n'y a pas longtemps pour faire des jeux saisonniers, enfin toutes sortes de
jeux service quoi.
Complètement, ou même revoir la monétisation, je pense, de certains jeux payants. Hein. Voilà, ça donne une certaine perspective, ce vers quoi on va aussi aller, et je suis comme. Je trouve ça intéressant, mais par contre, je mets aussi en garde sur le fait qu'avec le Covid, avec les pénuries, on est aussi face à un cycle de consoles de nouvelle génération complètement nouveau, quoi. Enfin, on est dans l'inconnu, c'est hyper dur de projeter un petit peu quelles seront les habitudes de consommation, quels seront les chiffres, et de mettre les courbes de la PS5 au-dessus de celles de la PS4. Je trouve que bon. C'est bien de le faire, mais on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises.
Bien sûr. Là, disons que c'est factuel, les chiffres sont ce qu'ils sont. Maintenant, c'est dans un contexte qui est perturbé, qui peut évoluer, et qui... ça ne veut pas dire que la PS5 se vendra mieux que la PS4 de la même... au final, hein, à la fin de sa vie, de la même manière que ça ne veut pas dire que la PS5 se vendra mieux que la Switch, au final non plus, évidemment. Mais il n'empêche, c'est une belle dynamique pour Sony. Et pour préciser sur la répartition dont vous parliez, sur le software, il y a plus de 50% des revenus, enfin du chiffre d'affaires de Sony, qui est représenté par les DLC, les microtransactions, etc. Alors, évidemment, il y a les FIFA, les Call of Duty, tout ça, les jeux gratuits, qui jouent beaucoup là-dedans. Moi, ce que je retiens également, c'est que dans ce chiffre d'affaires, on a plus de 50% de microtransactions et DLC, et le dématérialisé, par rapport au jeu physique, le dématérialisé représente presque 40% et le jeu physique seulement un peu plus de 10%. Ce qui m'a un petit peu surpris, parce que j'ai l'impression que les gens achètent beaucoup de jeux physiques encore, surtout quand on veut faire des bonnes affaires au moment de la sortie, bah, ils coûtent moins cher en physique qu'en dématérialisé, ce qui est un petit peu ironique, mais bon. 40% sur le dématérialisé pour les jeux complets. Hein. Là, on ne parle pas des microtransactions, mais jeux complets, 40%, ça m'a un petit peu surpris. Mais le fait est là.
C'est exactement les chiffres qu'on a en France, hein, vraiment sur le marché. Et enfin, moi, je trouve que c'est pas si étonnant que ça. Mais on est, voilà, on est un pays aussi où les gens qui sont joueurs réguliers, ils aiment beaucoup acheter en jaquette. Donc, je pense qu'il y a un prisme déformant autour de nous de gens qui achètent des jaquettes. Et j'en fais partie. Voilà.
Alors moi, pas du tout.
Il faut voir en plus que la PS5 est quand même pas donnée et que la version sans lecteur physique est quand même 100 balles moins chère. Et du coup, elle peut être assez attractive. Je parle en connaissance de cause parce que sachant que j'allais avoir la fibre à la maison, quand j'ai acheté ma PS5, j'ai opté pour la version sans lecteur physique pour économiser 100 balles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce calcul aussi. Et du coup, naturellement, on se retrouve avec une machine qui, du coup, va être sur le démat sans son, quoi.
Moi, j'ai une version avec lecteur physique et je sais même pas s'il marche. Je m'en suis jamais. Bon, écoutez, ça c'est. On a bien compris que pour Sony, ça va très bien et du coup, on peut passer à la crèmerie d'en face. On va parler un petit peu de Redfall. Et de l'accident industriel que ça semble être. Alors, je ne sais pas, moi, j'y ai très peu joué. Vraiment, j'ai juste fait le tutoriel, ça m'a suffi. Mais on a ici quelqu'un qui y a joué beaucoup plus longtemps et qui peut en parler. Avant ça, je voudrais juste mentionner les problèmes de Star Wars Jedi Survivor sur PC spécifiquement. Pourquoi je le fais ici ? Parce qu'il y a des problèmes de performance sur PC. Pour Jedi Survivor, il y a des problèmes souvent sur les jeux PC, à vrai dire, même Redfall, il ne tourne qu'en 30 images par seconde sur console. Donc, bon, c'est pas... Et il y a des petits soucis même de performance, mais c'est le dernier de ces soucis à Redfall, les soucis de performance. Mais Jedi Survivor, on en parlait la semaine dernière, et il y a quand même eu depuis une grosse fronde qui s'est levée contre la version PC. J'ai beaucoup lu et regardé sur le sujet. Ce qu'il en ressort pour moi, c'est que effectivement, Jedi Survivor sur PC a de gros soucis. Ces soucis sont gérables pour un joueur normal. C'est-à-dire que bon, ça va être un petit peu pénible, surtout après le premier patch et le deuxième patch qui sont déjà appliqués. C'est un petit peu pénible, genre il y a des textures qui se chargent pas bien, il y a des petits soucis dans les cinématiques, ce genre de choses, mais ça ne semble pas amputer le plaisir de jeu pour les joueurs normaux les joueurs, on va dire, normaux. Mais par contre, il y a des choses assez inacceptables pour les joueurs qui ont des grosses machines. Par exemple, le fait que même sur une bête de course, le jeu ne tourne pas à plus de genre 60 images secondes. Genre, vous avez une 4090 et le plus gros processeur que vous puissiez acheter, eh ben, il ne va pas tourner à plus de 60 images secondes. Il y a des problèmes effectivement de chargement de texture, même sur ces machines, de compilation de shaders. Enfin, il y a des gros soucis techniques, mais qui, en fait, j'ai l'impression, c'est mon impression, affectent surtout les gens qui ont une grosse configuration parce qu'ils n'arrivent pas à en tirer parti. C'est ce que je comprends, moi, de tout ce que j'ai lu et vu sur le sujet, y compris le test assez complet qui est... Alors, jusqu'à ce que je vois les tests de Redfall, j'avais l'impression que c'était le test le plus comment dire, assassin de l'année. C'est celui de Digital Foundry qui fait des tests techniques. Mais voilà, en gros, vous saurez à quoi vous en tenir. J'ai l'impression que, pour quelqu'un de normal, un joueur normal, c'est pas... il faut savoir qu'il y a des soucis techniques, mais qui vont pas... On n'est pas sur, je sais pas moi, Cyberpunk, où on dit, mais non, ne l'achetez pas parce que c'est, ça tourne pas. Voilà. En gros, je résume.
Maintenant, et surtout, il y a des patchs. Enfin, je veux dire, l'équipe travaille d'arrache-pied pour corriger tout ça. Il faut aussi prendre en compte voilà, ce cycle de sortie des jeux, des dates de soumission, des versions, des dates de soumission des patchs, des aléas qu'il peut y avoir avec les compatibilités de cartes, etc. Enfin, ça représente voilà, un lancement de jeu aujourd'hui. C'est quand même un truc assez monumental. Il y a un thread hyper intéressant de Emar Azaizia d'Ubisoft là, qui fait des threads tous les lundis quand il arrive au boulot à Montréal et qui fait voilà, des threads souvent passionnants. En plus, lui, c'est un insider, il travaille donc chez Ubi et il parle un petit peu de ce souci de lancement et voilà, il remet un petit peu quand même les choses dans leur contexte avec ce que ça représente de taf pour les équipes de gestion. Voilà, bon, effectivement, on aimerait tous que les jeux sortent nickel, parfait, etc. On n'est peut-être plus à l'époque voilà, des jeux qui passaient gold, qui allaient chez le graveur. Maintenant, on sait qu'il y a des périodes de soumission, qu'entre l'arrivée du jeu et sa soumission, il se passe généralement 3 à 4 semaines. Donc, pendant ce temps-là, ça travaille sur le patch day one. Voilà, ça fait partie des process, etc. Donc, bon, un peu d'indulgence. C'est toujours frustrant de ne pas pouvoir profiter pleinement de l'expérience de jeu au début. Mais voilà, il y a quand même des choses à prendre en compte dans tout ça, quoi.
Si tu peux me retrouver le thread, ça pourrait m'intéresser.
Je vais aller voir ça. Ouais.
Donc bon, voilà pour Jedi Survivor sur PC, que les gens semblent continuer à recommander assez chaleureusement avec cet avertissement sur les performances. Et puis maintenant, donc, on arrive à Redfall. Je ne sais pas si j'en ai donné quelques indices, mais je vais juste donner la parole à Crevette, du coup, à Maïbi. On n'en a pas vraiment parlé. Là encore, tu m'as donné quelques indices. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ce jeu ?
Oui, alors, c'est l'avantage maintenant, c'est que depuis que je suis chez Numerama, on est un petit peu plus souple en termes de NDA, et puis on se donne le temps de tester les jeux et de ne pas être forcément voilà, à 17h précise, à 17h01 quand le NDA, donc pour les non-initiés, c'est on a un embargo quand on est testeur de jeux vidéo. Ça répond d'ailleurs, il y avait dans le chat quelqu'un qui raillait le fait que j'ai économisé 100€ sur le prix de ma console. Mais que du coup j'achète mes jeux chers derrière, mais oui, mais nous on fait partie de la bourgeoisie vidéoludique et en tant que journaliste généralement on a des codes et un petit peu en avance, donc je paye pas beaucoup mes jeux, j'avoue. J'ai cette chance là, donc c'est aussi, ça fait partie de mon petit calcul. Voilà, bref, donc en tout cas ce que je voulais dire, c'est que du coup j'arrive un petit peu alors qu'il y a déjà pas mal de reviews qui sortent et ça commence à allumer un peu chez moi mon côté avocat du diable, et puis j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de vrai, very bad buzz qui vient enfoncer des pieux dans le cœur d'un jeu qui est quand même pas à ce point catastrophique, calmons-nous. Je pense qu'en fait, la déception est à la hauteur des attentes, parce que rappelons-le, c'est quand même le nouveau jeu donc de Arkane Austin, hein, la branche américaine de Arkane, qui est la série de Dishonored, Deathloop pour les Lyonnais. Et donc, eux, c'était quand même les créateurs de Prey, qui est quand même pas rien. Hein, en termes d'immersive sim, c'était quand même un monument, clairement. Hein, franchement, c'était un jeu énorme. Et donc, bien sûr qu'on les attendait. Et je sais pas, il y avait une petite musique, il y avait encore cette énième musique avant la sortie du jeu sur « Oh là là, on sait pas ce que c'est comme jeu, on comprend rien, ils savent pas vendre leur jeu, c'est compliqué, etc. » Et puis ensuite, il y a effectivement cette news qui dit « Bon, bah le jeu, il sera pas en 60 FPS, oh là là, regardez, il va sortir pas fini. » Enfin, il y avait cette petite musique ambiante qui était assez désagréable, et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Allez, le côté limite charognard, franchement, je trouve qu'il y a une sorte de cruauté vis-à-vis de ce jeu. Ouais. Bon, Mais effectivement, la déception est quand même très grande. Encore une fois, on sort de Prey et là, on arrive dans Redfall. Tout à l'heure, tu me demandais un mot pour le définir et je, avec malice, je disais Ubisoft 2010. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, tout simplement, j'ai clairement l'impression que c'est un jeu qui est dans son game design intrinsèquement, avec des ingrédients qui sont un peu éculés en fait. Le jeu veut cocher beaucoup de cases un peu populaires et a du mal à trouver sa voie là-dedans, c'est-à-dire qu'on est sur du FPS avec une grosse part coop, un énorme côté looter-shooter, un open world, un cloisonnement de la campagne, une construction de la campagne qui est hyper cloisonnée avec des quartiers à libérer, des soumissions du coup dans les quartiers qu'on libère. Il y a un truc sur lourdingue là-dedans. C'est sûr que en 2023, sortir un open world comme ça avec des mecs qu'on sait si créatifs, c'est sûr que c'est très décevant. Moi, je m'attendais clairement à une sorte de d'enquête sur l'exploration. Je m'attendais à fouiller la ville, à découvrir naturellement des choses. Un truc vraiment hyper organique. Et là, je tombe sur un sur The Division 1, quoi. Donc c'est sûr que c'est très très frustrant. Après le cœur gameplay, on est quand même sur un shooter d'arcane, donc super fluide, des pouvoirs, donc il y a quatre personnages au choix, hein, comme le jeu est axé sur la coop. On a donc quatre personnages avec des arbres de compétences différents, des pouvoirs différents, donc des pouvoirs très typés arcane, hein, donc téléportation pour l'un, invisibilité pour l'autre, invisibilité pour l'autre. Il y a la même mécanique, donc on a chaque personnage a deux pouvoirs principaux et un super, donc qui se débloque en ramassant des petites orbes lâchées par les vampires qu'on peut tuer. Voilà. Remise en situation, parce que du coup là je suis parti en flow.
Ouais.
Donc on est sur un open world, on explore la ville, enfin l'île de Redfall dans le Massachusetts qui est coupée du monde après que des vampires aient pris le pouvoir, et donc on est vraiment sur un open world très classique. Moi je l'ai trouvé plutôt cool dans sa première partie en tout cas. Vraiment, on a ce village. Moi, ça me fait penser un peu au village du Maine, tu sais, les villes portuaires décrites par Stephen King. Il y a vraiment ce côté-là, les petits bungalows en bois à pilotis qui donnent sur la mer, la petite église au fond de la forêt, le phare gigantesque qui surplombe tout ça. L'univers est très cool. Il y a plein de bâtiments très sympas. On peut rentrer dans beaucoup de maisons, beaucoup de boutiques. Donc, il y a ce côté très attirant. De ces open world, et il y a un premier souci, c'est que en fait on a envie d'explorer, mais le jeu nous dit non mais explore pas en fait, parce que quand tu commences à explorer tu te dis putain il y a un cinéma, bah tu vas dans le cinéma, tu fouilles le cinéma, tu te dis en plus c'est un looter shooter, donc tu te dis je vais avoir du loot, je vais avoir un truc caché, il y a des ennemis qui protègent cet endroit, ensuite tu vas dans l'hôpital, tu fouilles l'hôpital, t'es content, etc. Et puis ensuite tu retournes à ta base, tu te dis bah tiens je vais faire des missions maintenant, et les missions c'est hey, si tu allais au cinéma, mais mec j'en viens en fait, et non mais là c'est maintenant la mission du cinéma mon gars, et la mission de l'hôpital c'est juste après, mais je l'ai déjà fait, non c'est maintenant la mission de l'hôpital, et c'est comme ça pour toutes les autres. Donc au bout de 3-4 fois où tu refais les mêmes trucs, tu fais bon ok d'accord j'ai compris, et tu passes en mode vraiment ligne droite, mission, ça c'est vraiment très rageant. Et deuxième souci de l'open world, c'est qu'en fait il y en a pas un, il y en a deux. Et ça, j'ai été ultra surpris, je m'y attendais pas. Je crois pas que ça ait été diffusé, enfin qu'ils en avaient parlé avant, mais il y a Redfall, la ville, et ensuite il y a Burial Point, qui est en fait Redfall bis. J'ai pas compris. C'est la même ville, il y a un phare, il y a des bâtiments à nouveau.
Mais tu
là,
dis,
bon,
bah,
il y a pas un musée, mais il y a un parking, il y a pas un machin.
C'est pas genre la même ville de l'autre côté du miroir des vampires, genre la même...
Et non, je croyais qu'il y aurait ça. Et je m'attendais carrément à ce qu'ils jouent sur ce côté monde parallèle, hyper psychédélique, taré. Je m'attendais à ce qu'ils aillent là-dessus. Trop pas, tu traverses un tunnel. Déjà, tu peux plus revenir dans la première zone d'open world. Pourquoi ? Personne ne sait. Vraiment personne. Tu découvres en fait une deuxième zone qui est un peu plus grande, qui est sur la même construction, donc avec des quartiers à prendre, des machins, des missions à faire.
Est-ce que c'est pas censé être
des lieux qui se ressemblent de ouf
une fois que tu as fini la campagne ? Non, même pas.
Eh bien non. Et autre erreur fondamentale de game design qui, moi, m'a foutu, c'est que ces fameuses petites missions facultatives que tu débloques quand tu débloques un quartier, parce que tu débloques des petites safe house, donc des caches, enfin des refuges, qu'ils appellent ça, il y en a plusieurs dans les différents quartiers. tu débloques ça, ça va être ton point de respawn, en fait, si jamais tu meurs. C'est là où tu peux collecter. Enfin, et donc, tu as des missions, là. Bon, bah super. Moi, au début, je dis, bon, moi, je m'en fous de ces missions-là. Sauf que le jeu te dit, tu te souviens des missions secondaires là, que tu avais dans les refuges, là. Ouais, les trucs hyper chiants où il suffit juste de tuer 3 zombies. Par contre, ce serait bien que tu les fasses, sinon, je te montre pas la suite de mon histoire, mon pote. Et là, j'ai fait, ah non, en fait. Non. Eh ben, si. En fait, pour débloquer la campagne, il faut impérativement faire ces missions de refuge. Genre, et d'où ce truc Ubisoft machin, parce que ça, c'est typique de l'époque Assassin's Creed Syndicate, où t'avais les trucs de libération de camp machin qui te disaient il faut à tout prix pour regagner Londres que tu fasses ça. Mais non, quoi, pas ça en 2023, pas ce genre de truc, c'est pas possible. Tu peux pas emmener les joueurs de force vers des trucs qui sont juste des à côté, qui sont là pour meubler un peu, quoi.
Voilà. Ouais, du coup, au final, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est... comment dire ? J'ai l'impression que c'est un jeu qui n'a déjà pas l'originalité qu'on attend de Arkane Austin, qui n'a pas la réussite du genre qu'il essaye d'explorer, qui a beaucoup de frustration, parce que tu dis on peut y jouer à 4, effectivement, on peut jouer tout seul... aussi, entre parenthèses, on peut pas jouer hors ligne, même quand on est tout seul. Oui. Et c'est pas que les gens peuvent... Enfin, oui, les gens peuvent te rejoindre en cours de route, ok, pourquoi pas. Mais il y a un autre truc qui m'a marqué, moi, dans la demi-heure que j'ai fait, c'est à quel point... C'est un FPS. Ce jeu est un FPS. Hein. C'est qu'il n'y a pas à tortiller des fesses, c'est pas un truc d'exploration, de... Il n'y a pas le game design de... Arkane, c'est-à-dire que à aucun moment tu as l'aspect un petit peu immersive sim où tu peux choisir comment rentrer dans telle ou telle zone que tu vas. Non, tu arrives, tu shootes les ennemis, tu shootes les vampires et tu chopes le truc que tu dois choper. Donc c'est un FPS. Et le gunplay de ce FPS est tellement mauvais que ça m'a dégoûté au bout d'un quart d'heure. Moi, je me suis dit, je vais le tester, c'est une grosse sortie pour Microsoft, c'est un de leurs jeux, de leur studio aujourd'hui. Arkane, c'est ZeniMax, c'est Bethesda, c'est Microsoft. Tu as en fait un truc dont parle SkillUp, qui est un YouTuber qui est assez populaire, dans sa review qui est un assassinat, qui est vraiment argumenté. C'est pas juste qu'il prend plaisir à dire que les jeux sont mauvais. Il y a beaucoup d'arguments. Mais un des trucs qu'il dit, c'est que le contrôle du flingue, de la visée à la manette, est infernal. Et c'est ce que j'ai ressenti vraiment. J'avais pas vraiment compris pourquoi, mais il y a une dead zone sur le joystick qui fait qu'il faut vraiment pousser le joystick pour que ton flingue commence à bouger pour viser. Mais une fois que t'es arrivé à l'endroit du joystick où ça commence à prendre en compte, t'es déjà tellement loin que tu fais un mouvement hyper brusque. Donc c'est hyper dur de viser, mais vraiment compliqué, quoi. Et du coup, la base de ce que tu fais, le cœur de ton activité d'une seconde à l'autre sur le jeu, déjà, c'est frustrant. En plus de ça, il y a plein de choses dont il parle que j'ai un petit peu constaté, mais qui se confirment visiblement sur le reste du jeu. Des problèmes d'IA des ennemis, de pathfinding, donc ils n'arrivent pas à trouver, ils montrent à un moment un des ennemis en particulier qui est censé être terrifiant, qui arrive avec des éclairs partout, des éclairs rouges qui rendent super bien, et bien si tu n'es pas pile sur le sol, genre si tu montes sur une voiture, il ne te trouve pas. Il ne te trouve pas, il continue à marcher en rond, il était en face de lui, quoi. Et plein de trucs comme ça, je ne vais pas vous faire toute la vidéo, je la mettrai dans la newsletter pour les Patriotes, vous pouvez aller trouver SkillUp si vous voulez sur YouTube, je la mettrai dans la newsletter pour les Patriotes, parce qu'elle est drôle à regarder et en même temps catastrophique. Et là, je vous ai donné deux exemples, mais il n'y a que ça du début à la fin. D'autres exemples de trucs qui rendent le jeu vraiment frustrant. L'histoire n'est... Il n'y a pas d'histoire qui est racontée vraiment de manière intéressante, mais il y a bien sûr des petits logs, des trucs qu'on trouve dans le monde pour vous raconter ce qui s'est passé. Ok, pourquoi pas. Mais à un moment, il y a un audiologue. L'audiologue, il dure 1-2 minutes, ce que c'est, mais il faut rester à côté de l'audiologue pour l'écouter. Tu ne peux pas te déplacer et ça continue à jouer.
C'est diégétique, Patrick. Ouais. C'est
non,
ça.
Mais tu peux prendre avec toi le player.
Ah, tu pourrais le prendre avec toi. Ouais, mais tu ne vas pas te remballer avec 146 dictaphones au bout d'un moment. Quoi.
Bah, en même temps, les loots, ça te file de l'argent et tu peux prendre
mais
du papier toilette.
Mais on est carrément d'accord. Un audiologue, c'est... le but de base, c'est de dire je peux te raconter mon lore facilement pendant que tu continues à marcher vers l'autre endroit.
Mais je veux dire,
évidemment, c'est débile.
Et, mais c'est pas que ça. C'est
la narration est un énorme souci. Mmh. On sent clairement que déjà le jeu a pas grand chose d'intéressant à raconter, on va pas se mentir. Et puis effectivement, c'est à base de cutscenes en images fixes tout le temps. Et puis sinon du texte par des bouts de papier que tu... franchement au bout d'un moment moi j'en avais
j'en ai lu trois et puis j'ai arrêté
mais de toute façon l'histoire est même pas très intéressante donc t'as même pas envie d'aller fouiller parce que bah, dans Prey par exemple il y a beaucoup de choses qui se passent dans les emails que tu fouilles que tu trouves dans les ordinateurs et tout et effectivement la narration il y a fait aussi partie des soucis même si c'était pas le premier truc un tout petit truc je te laisse finir après mais après un tout petit passage dans les options, juste pour régler la sensibilité du stick, qui au début, effectivement, j'ai failli tomber dans les pommes lors des 5 premières minutes, j'ai fait ouais, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai fait un tout petit réglage de sensibilité de stick et franchement, j'ai trouvé ça très efficace et je trouve quand même que le sound design est vraiment bon. Il y a un bon arsenal, les pouvoirs sont quand même cool. Il y a quand même une certaine, enfin, j'ai retrouvé notamment la vivacité du personnage que j'apprécie beaucoup chez Arkane. On l'avait déjà dans Deathloop. Je trouve quand même bon, c'est un peu sévère de l'enterrer aussi vite, il y a quand même une base de gameplay qui est quand même assez solide et qui moi en tout cas m'a pas mal plu quoi.
D'accord, bon bah écoute ça fait du bien d'entendre un petit peu de positif sur le jeu quand
ouais
même,
non mais c'est que... ça je trouve qu'il y a quand même une en fait il y a une sorte de biais de confirmation à la négative, c'est à dire qu'on a envie tu vois d'aller chercher chaque élément genre, oh, regardez cet ennemi il avait un pathfinding foireux alors du coup toute l'IA est aux fraises, ouais enfin ça arrive, moi ça m'avait pas arrivé hein, le fameux je sais plus comment ils les appellent, l'apocalypse je crois ils l'appellent quand c'est son gros méchant
anglais,
débarque
c'est les rooks, les genre les tours
franchement il m'a défoncé à chaque fois enfin
mais t'es pas monté sur une voiture t'es pas monté sur un parc
mais je suis pas monté sur voiture voilà ouais.
C'est mais ouais, bon, au final, Non, vas-y Pierre, vas-y. Oui, si
sur le pathfinding, je l'ai eu sur d'autres ennemis. Hier encore, dans la deuxième zone, j'ai un ennemi qui courait contre une caisse pendant que je flinguais les autres et je l'ai fini par derrière à la fin, quoi. C'est pas possible. Genre vraiment, j'ai retrouvé le problème tout pété, enfin ce problème-là avec les IA régulièrement, quoi. J'ai trouvé ça hallucinant, sans compter le nombre de fois où des cadavres flotte au sol et s'agite un peu dans tous les sens sur ma version PC quoi. Enfin, moi ça vraiment je l'ai lu dans des critiques mais je l'ai eu aussi en permanence quoi. Tout ce que j'ai lu sur le jeu je l'ai déjà eu, c'était pas des trucs où voilà où je me dis tiens c'est drôle quelqu'un a eu un glitch, en fait j'ai à peu près le même parcours que les autres donc je me dis que c'est pas si isolé que ça.
Ce qui en ressort au final, même bon Thomas qui semble vouloir trouver des qualités au jeu
mais genre, sans doute oui, parce qu'ils sont là. Bah non mais que... ne serait-ce que franchement il y a une équipe derrière quoi.
Non mais
il y a une équipe de talent de ouf et
bien sûr. Mais
et il y a quand même en plus mais prenez-le franchement, il est au Game Pass, franchement allez-y quoi. Allez-y. Écoute, en vous disant que vous allez jouer à un jeu un peu cabossé. Très cabossé.
Mais t'as passé du bon temps.
Et très
bon
rigide dans sa progression. Mais franchement, avec des potes, faites un peu de. Voilà, ce week-end, tranquillement, Game Pass à 2, à 3, à 4. Franchement, il y a des choses à trouver appréciables, je trouve, dedans, quand même. Quand on
gratte. Moi, je trouve à plusieurs, c'est appréciable. Hein, c'est vraiment sympa. J'ai passé un bon moment avec Corentin, Benoît Gonin, qui a fait le test pour nous, Alias Kokobé et un autre collègue. Sauf qu'en fait, on était sur ma partie et pour les autres, en fait, la progression n'avance pas. Donc,
c'est bizarre, ouais. C'est ouf. Tu fais un jeu coop, mais ça profite que à un gars, quoi.
Voilà, donc Marius Chapuis de Libé qui est avec nous, il a dû recommencer de zéro. Corentin, il a refait avec l'équipe de Silence on joue. Et il a dû recommencer de zéro. Je crois qu'il a fait 4 fois la première zone et il n'en pouvait plus à la fin. Et sur l'équilibrage même, enfin voilà, c'était un peu, on est allé dans sa partie au début, mais les adversaires étaient trop forts, il est allé dans la nôtre, mais bon, du coup, il pouvait plus tirer sur personne parce que ça fonctionnait plus. C'était quand même un peu foutraque, et je confie quand même que j'ai eu des sensations sympas en multi parce qu'il y a ce côté convivial, et que l'expérience de jeu en solo... moi, m'a beaucoup moins intéressé. Voilà, j'ai trouvé que, à part les petites montées de tension quand il y a des vampires, c'est-à-dire qu'on croise à la fois des humains, qui sont en plus parfois adversaires entre eux, et on croise aussi des vampires et qui d'un coup sont beaucoup plus dynamiques et tout ça. Quand t'es tout seul, t'as un peu peur. Il y a vraiment, t'as d'autant plus peur que bah moi mon stick, j'ai essayé un peu sur manette, sur PC, et mon stick partait dans tous les sens au début, donc j'ai arrêté tout de suite. Mais à part ça, voilà, moi oui, si vous voulez faire une partie entre amis multijoueurs, c'est un bon côté. Mais après voilà, moi je serais vraiment plutôt à le déconseiller pour les gens qui ont envie de voir un bon jeu Arcane, qui sont plutôt des jeux adultes, qui nous prennent pas par la main et qui nous laissent penser par nous-mêmes, qui ont des univers très construits, qui sortent en plus des sentiers battus. En général, ils sont très forts pour ça, avec des propositions de gameplay, en fait, qui sont pas faciles à prendre en main. Voilà, moi, pour avoir discuté avec Dinga Bakaba, président d'Arcanion, il me racontait à quel point le côté de friction, c'est-à-dire que voilà, avec le gameplay pour le joueur, c'est un truc important pour eux. Là, j'ai pas eu l'impression d'être dans un de leurs jeux, en fait.
C'est l'impression qui ressort au final, parce que le level design, qui est l'immense force d'Arcane généralement, qui s'allie évidemment avec le game design en général. Et évidemment que c'est pas les parties FPS, ça a jamais été leur grand fort, mais il y avait des choses pour contrebalancer par derrière. Là, on a l'impression vraiment d'un accident. Le level design n'est pas intéressant. Le côté FPS, alors je pense qu'on s'accordera à peu près tous pour dire qu'il est pas fou. Au mieux, il est pas fou. Au pire, il est franchement mauvais. Le côté monde ouvert, il n'est pas réussi. Enfin, il n'y a que des trucs qui sont au mieux moyens, au pire vraiment problématiques. Et à ça vient s'ajouter le fait que c'est pas un jeu qui sort de nulle part, qui a été développé par un développeur tiers avec les moyens du bord. Qu'on le veuille ou non, et que l'explication soit cohérente ou non, c'est un jeu des studios Microsoft qui arrive après des mois, voire des années de disette au sein de Microsoft, qui arrive en plus avec cette dynamique du refus du rachat de Activision Blizzard par la CMA en Angleterre, qui pose des problèmes pour le rachat et qui donc met un petit... disons que c'est pas la fête chez Microsoft en ce moment. Entre parenthèses, Phil Spencer n'a pas tweeté sur le jeu, il n'a pas annoncé, il n'a pas dit félicitations aux équipes, il a... Enfin, c'est un détail, mais... C'est
vous avez vu, il y a Starfield qui arrive.
Mais c'est ça, ils ont immédiatement dit, on a notre conférence qui arrive en juin, ça va être super, ça va être fou, machin. Ok, très bien, genre, oubliez-le. Mais ça a quand même des conséquences sur Microsoft, cette histoire. Parce que moi, alors, depuis qu'on parlait du rachat, les gens avaient l'habitude de dire que j'étais super pro-Microsoft, et que, alors que non, je regarde simplement ce qui se passe dans cette industrie et j'essaye de commenter. Et là, ce qui en ressort, c'est que c'est pas juste un jeu moyen qui est sympa à avoir sur le Game Pass. C'est un jeu sur lequel était basé une bonne partie des espoirs de joueurs Xbox et de Microsoft, qui est l'un des premiers vrais jeux des studios Microsoft qui sortent depuis des mois. Genre, on nous a donné un petit peu l'impression que c'était un triple A, blockbuster, machin, et que c'est un jeu qui, au mieux, est moyen dans une période et dans une industrie où les jeux excellents se battent déjà et se donnent des coups de coude pour essayer d'avoir un petit peu de place. Là, c'est plus possible. Il y a un vrai problème. Je pense que, enfin, Starfield maintenant, et on va voir ce qu'il va donner, mais si Starfield n'est pas un succès retentissant, il va y avoir des têtes qui vont tomber chez Microsoft. Je ne sais pas si ça sera Matt Booty ou Phil Spencer directement, mais il y a un truc qui ne va pas avec les studios Microsoft. Qui nous sortent des Minecraft Dungeons, des Minecraft Legends qui sortent, on en parle une semaine et après on les oublie. Qui nous sortent des Hi-Fi Rush en Shadow Drop, qui sont super cool, machin, mais bon... Voilà, c'est pas un jeu c'est pas un triple A d'un constructeur éditeur qui a dépensé des milliards et des milliards pour acheter Bethesda et d'autres studios. Surtout quand en face, on a des Horizon, des God of War, des Zelda, des Mario, des Splatoon, enfin, à un moment, tu ne peux pas dire, moi je suis une plateforme, le Game Pass il est sympa et Dieu sait que j'en vante les mérites depuis des années et des années, mais tu peux pas reposer ta proposition commerciale dans l'industrie du jeu vidéo sur juste ça et ne pas sortir toi-même des jeux. C'est juste... Enfin, c'est pas possible. C'est pas... Ou alors, tu y vas à fond, t'as pas de studio et tu dis, moi, je fais un service avec les jeux des autres. C'est possible aussi. Mais c'est pas ce qu'ils proposent, Microsoft. Et là, on commence vraiment à avoir un problème. Phil Spencer a passé ses dernières années à racheter des studios. Combien de temps il faut attendre pour que ces studios sortent des jeux qui valent la peine ? Je veux dire... Good guy, on est sympa, on laisse les développeurs faire ce qu'ils veulent. C'est super cool, oui, soyons gentils et respectons les développeurs. Ok, Mais à un moment, il faut qu'il y ait des jeux bien quand même, je sais pas. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être Bobby Kotick et de sortir le fouet à chaque réunion hebdomadaire. Mais est-ce que... Je sais pas si c'est parce qu'il est un trop good guy ou si Matt Booty n'est pas capable de gérer sa quantité de studios, j'en sais rien. Mais c'est vraiment un problème, là. Et je m'excite parce que j'aimerais que les gens perçoivent l'importance dans l'industrie de cette sortie ratée de Redfall, parce que qu'il soit moyen ou bof ou pourri, le résultat est le même, c'est une sortie ratée à un moment où Microsoft ne peut pas se permettre de rater des trucs. Ils peuvent plus. Ils arrivent au bout de la corde qu'on veut bien leur donner, quoi. C'est plus que juste un jeu raté.
Il y a un truc qui va en plus dans ton sens, c'est que c'est un jeu qui est uniquement PC, Xbox Series X, Series X, donc estampillé next-gen, et qu'il sort techniquement, du coup, t'as envie d'en avoir un petit peu pour tes mirettes, et franchement, le jeu tourne sur Unreal Engine 4, tourne péniblement, c'est-à-dire que 30 FPS, moi au début, j'aime pas trop ce genre de débat, mais in-game, effectivement, ça picote un peu, d'autant que le framerate n'était pas très stable, et d'autant que Pat Arcane oblige, on est sur des textures qui sont volontairement simplistes et minimalistes, et que le jeu est quand même assez lambda. Là, il y a une DA, il y a des jolis décors, des machins, mais et c'est vrai qu'il y a ça qui ajoute en plus, c'est que c'est même pas un porte-étendard de quoi que ce soit, comme pouvait l'être le dernier Forza Horizon, où t'en prenais plein les yeux et que c'était complètement incroyable, même si le game design était le même que les autres. Rien que ça, ça suffisait à te mettre à genoux et te dire hey, « Putain, super, j'ai ma nouvelle Xbox, j'en ai pour mon pognon. » Et là, il n'y a même pas ce petit machin en plus. Donc effectivement, ça devient très compliqué. Et j'aimerais pas être à la place des équipes de Starfield. Vraiment, vraiment pas du tout.
Mais il y a tout... alors, j'exagère un tout petit peu en disant ça. Mais là, c'est un petit peu l'avenir de cette génération. Encore une fois, j'exagère, mais quand on voit la dynamique de vente de consoles et tout ça, j'exagère, je ne... fantasme pas complètement le truc, mais je pense vraiment que vu la dynamique aujourd'hui, si Starfield n'est pas un très bon jeu, n'est pas un excellent jeu, ça joue un petit peu l'avenir de cette génération.
Et Forza Motorsport, Patrick, tu oublies Forza Motorsport, qui va être le GOTY.
C'est ça.
Intersidéral et qui va sauver Microsoft. Voilà.
Non, mais tout se joue sur Starfield, là, et il ne peut pas se rater. Ouais. Enfin, Pierre, est-ce que j'exagère en disant que ça joue un petit peu la réputation auprès des joueurs de Microsoft ? Starfield, il ne peut pas être mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, il peut, mais s'il peut, on va commencer à ne plus trouver des excuses à Microsoft, quoi.
Personnellement, moi, l'exclu que j'attends, c'est Planet of Lana. C'est le plus jeu,
qui arrive dans 20 jours, là. Non, mais si on parle de l'industrie en général, c'est quand même... là, c'est Starfield qui doit porter l'étendard que tout le monde a laissé tomber, quoi.
Ils ont toujours une botte secrète. Hein. Si Starfield ne marche pas, il y a toujours The Elder Scrolls 6. Il y a encore son coude et qui va faire rêver tout le monde, autant que voilà, qu'un nouveau Zelda. Je pense que Skyrim 2.
Et Fable ouais, par Playground quand même.
Mais tu vois,
je reviens de 2032 et franchement, les jeux Xbox, ils sont pas mal. Hein.
Mais c'est ça, je disais, cette génération, ils auront Elder Scrolls 6 pour la prochaine génération, c'est pas pour celle-ci. Mais ils ont.
Pour compléter ce que tu dis, Patrick, je trouve ça très intéressant ton regard sur Microsoft et je voudrais juste nuancer en disant que c'est Bethesda aussi qui est dans le circuit. C'est-à-dire qu'on est à un moment où, alors je ne sais pas comment ça se passe en interne, l'édition de Redfall a été assurée par Bethesda. Moi, il y a eu un truc qui m'a rappelé un peu Ghostwire Tokyo dans ce jeu, ou Tokyo Ghostwire, pardon.
Ghostwire Tokyo.
Alors, Tango Frameworks, pareil, studio irréprochable, enfin bon, globalement, qui a eu de bonnes intuitions. Et dernièrement, avec Hi-Fi Rush, ils ont montré qu'ils étaient encore capables de bonnes choses, qu'ils sortent un jeu à moitié intéressant, avec des tropes de jeux vidéo en monde ouvert, Ubisoft 2010, comme Thomas, tu l'as si bien résumé. Et là, c'est quand même eux qui sont très présents dans l'échange avec Arkane Austin, enfin, avec l'équipe, et on a déjà dit, talentueuse d'Arkane Austin. C'est eux aussi qui ont donné une partie du cahier des charges. Je pense que toute la petite musique un peu trap, hip-hop qu'on entend, ils ont dû dire, ils nous font un jeu pour les jeunes. Le look des personnages, qui est très génération Z, comme on dit, que je comprends. Voilà, c'est intéressant qu'ils se renouvellent avec ça. Je pense aussi qu'il y a des demandes de Bethesda. Et dans l'accumulation de mauvaises critiques, alors là, je me permets de donner un regard un peu journaliste jeux vidéo, je sais pas, ça n'intéressera pas tout le monde dans l'audimat, mais au moins le donner, c'est qu'on a reçu le jeu vendredi soir. Jeu, même s'il fait 15h à peu près, un week-end de 1er mai, super. Donc, on reçoit un jeu au dernier moment, en plus un jeu pas fini, multijoueur, donc c'est-à-dire que dans les équipes, en fait, si on veut jouer le jeu au top de ses capacités, il faut qu'on se mobilise à 2-3. Nous, on a dit, voilà, à 3, donc on mutualise les forces, on fait un grand effort, parce qu'aussi, on veut être pro, et en face, on a un truc qui n'est même pas à moitié fini, quoi. Donc, il y a aussi ça qui a beaucoup joué, et ce problème, donc je comprends maintenant qu'ils aient voulu colmater les brèches en envoyant le jeu au dernier moment, mais en même temps, ils ont, je pense, entre guillemets, alimenté, entre guillemets, l'afflux critique, quoi, et les titres assassins, c'est clair. Moi, j'ai rarement vu des titres aussi assassins dessus, mais en même temps, il y a une unanimité dans les reproches qui lui sont faits. Donc, il faut aussi le voir sous tous les angles, en fait, pour se faire son propre avis. Et voilà, moi, je sais que tous les amoureux de jeux vidéo ont un avis critique et se nourrissent de différentes sources. Et c'est pour ça que je vous donne un peu tous les éléments.
Après, juste par rapport au délai de test, qui effectivement moi, m'a fait suer le premier, une toute petite précision, c'est compliqué quand même pour les jeux multi qui se reposent du coup sur l'ouverture de serveur et qui coincent forcément un peu les trucs. Deathloop avait, à mon avis, un bad buzz. Enfin, pas un bad buzz, mais avec déjà ce côté « Oh, on sait pas ce que c'est compliqué, Arcane, machin, etc. » Le jeu, on l'a reçu vachement en avance. Et là, on le reçoit tard, mais je pense quand même que c'est un peu dû au serveur. Je repense à mes expériences de reviewer de The Division 1 et 2, par exemple. On avait les jeux hyper tard parce qu'il y avait ce souci d'ouverture de serveur, de trucs techniques. D'ailleurs, pendant le test, j'espère que vous ne l'avez pas trop été impacté, vous, du côté du monde, mais les serveurs étaient parfois coupés. Samedi soir, tout content, je me mettais sur mon canapé, j'avais libéré du temps, et là, impossible de jouer au jeu, j'étais au bout de ma vie. Donc, bon, il y a ce petit paramètre-là à prendre en compte, mais effectivement, ça s'ajoute, enfin, ça fait partie des petites gouttes qui s'ajoutent dans le saladier, quoi.
ça fait beaucoup de gouttes, quand même, au final. Tu vois, même, on a parlé, évidemment, plusieurs fois de « Ah, merde, le jeu d'avant, il y a 2 ans ». Ah!
Deathloop, Prey?
Deathloop, merci. Oui. Deathloop, qui est un jeu vraiment bizarre, dont on ne savait pas de quoi il s'agissait avant de l'avoir entre les mains, etc. Il y a quand même eu des reviews. Enfin, personne n'a dit le jeu est mauvais ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui l'ont pas aimé, mais il y avait des choses hyper intéressantes au niveau du design. C'était une approche originale pour Arkane qui alliait son level design à un truc un petit peu multijoueur ou approche semi-monde ouvert, etc. Enfin, je veux dire. Là, il y a des vrais problèmes réels avec le jeu. Bon, et au-delà de ça...
Non, mais il y a clairement eu des soucis. Enfin, il y a des soucis techniques, il y a des soucis de game design.
Mais à la limite, tu vois...
Il y a clairement quelque chose... Enfin, il y a
un truc qui s'est mal passé. Quoi.
Quelque chose qui a pas cliqué et des soucis en interne et pourquoi et comment. Mais effectivement, mettre Microsoft dans la sauce, ça me paraît un peu compliqué. Hein. Je pense que on est sur du Bethesda, etc. Mais,
ah non, mais non. Mais
Bethesda, c'est Microsoft. Quoi,
oui, c'est ça. Bethesda, c'est Microsoft.
Mais
tu peux
pas... Mais on va pas dire c'est la faute de Microsoft s'il reste les mauvais.
Mais bien sûr que si. C'est la faute de Microsoft. Il y a quelqu'un qui est responsable.
Le projet
a été
lancé avant le rachat.
Bien sûr. Mais tu décides, il est sorti sous l'égide de Microsoft. C'est un jeu Xbox. Ils sont responsables du truc. Au final, quand c'est des trucs bien, on applaudit Phil Spencer. Bah, quand c'est des trucs pas bien, c'est Phil Spencer qui est responsable au final. Le jeu, il l'a vu avant qu'il sorte. Il l'a vu il y a un an. Il l'a vu il y a 2 ans. Matt Booty, qui est le responsable des studios Xbox, il l'a vu il y a un an. Il l'a vu il y a 2 ans. Il l'a vu il y a 2 semaines. Et il a dit, OK, bah, on le sort. Et sans doute parce qu'il fallait qu'il sorte quelque chose, etc. Moi, je pense qu'ils sont... Bon, bref, on verra les impacts que ça aura. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 11, ils vont encore nous promettre, le 11 juin, ils vont nous promettre des tonnes de trucs comme ils le font depuis maintenant 300 tous les ans, et on va trouver ça incroyable. Mais au bout d'un moment, tu vois, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais... Bon, écoutez, je crois qu'on va conclure là-dessus pour Redfall. Et on va vraiment conclure là-dessus pour Redfall parce qu'on a d'autres choses dont on veut parler.
Non mais
aussi.
Il est au Game Pass, voilà. Allez-y un jour si vous ennuyez.
Voilà. Je suis.
N'y allez pas seul.
Allez-y, n'y allez pas seul. Il fait peur et ce sera rigolo entre potes.
Je suis
c'est
le premier.
C'est un bon samedi soir. Si vraiment on n'a rien d'autre à faire, de lancer ça juste pour voir un petit peu. Enfin, quand on est curieux.
Why not?
Voilà, mais après. Il y aura toujours mieux à faire sur Game Pass.
Mais c'est ça le problème. Je suis le premier à dire, j'en ai même fait un jingle. Ça, c'est un jeu passable. Tu vois, un jeu passable, c'est un jeu qui est bien sur le Game Pass, qui est cool à avoir sur le Game Pass. Je suis le premier à dire, le Game Pass est super cool, j'en vante les qualités tout le temps. D'une part, il y a d'autres choses à faire sur Game Pass et ailleurs, mais même sur Game Pass, il y a mieux pour avoir pour passer un bon moment avec les potes. Et au-delà de ça, il y a les problèmes du fait que ça soit un jeu Microsoft porte-étendard. Enfin, bref.
En coop, il y a le It Takes Two que je ne cesse de recommander si vous voulez jouer à plusieurs.
Par exemple. Le Patreon, c'est sur patreon.com/rdvjeux et vous pouvez soutenir mes rentes énervées. J'en fais pas souvent des grands discours.
Je t'ai pas reconnu, Patrick. T'étais méconnaissable.
Mais ça arrive parfois. Et du coup, là, vous y avez eu droit. Si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié, sachez que chaque commentaire de personne qui est abonnée au Patreon vaut deux fois plus que le commentaire d'une personne qui n'est pas abonnée au Patreon. Donc, patreon.com/rdvjeux pour faire entendre votre voix. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent l'émission sur Patreon.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue du coup avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Et on va donner la parole un petit peu plus à... Bah, commençons avec Pierre, parce que je suis curieux de voir ce que va de t'entendre me décrire Age of Wonders, qui est un 4X, mais un 4X un peu particulier. Tu aimes cette intro? Un peu cringe.
Oui, merci pour la transition. C'est vrai que Patrick, tu nous as dit, là, enfin tu disais lundi, voilà, on va parler de Redfall, c'est Thomas quand même qui va plutôt se coller au jeu. C'est vrai que moi, je venais de faire Redfall, donc je me suis dit, bon, de quoi on va parler, étant donné qu'avant ça, j'étais sur Jedi Survivor sur PS5, donc c'est vrai que moi, j'ai pas eu les bugs PC, j'ai eu quelques petits bugs PS5, mais... donc je me suis dit, mais c'est quoi les autres jeux en ce moment? C'est quoi l'actu vidéoludique? J'avais une petite idée et tout ça, et j'avais installé Age of Wonders, et il n'attendait que moi pour se lancer, forcément. Et ça m'a fait un peu plaisir, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un 4X. Je ne sais pas, vous, votre dernier 4X, à part Civilization, hein, parce que moi, le dernier 4X nouveau que j'avais fait, c'était Humankind, des studios Amplitude, et donc qui est aussi sur la même lignée, on va dire, que Civilization, donc qui offre un petit peu des modulations, alors que là, Age of Wonders, comme tu le disais un petit peu, on est dans un monde fantastique, l'âge des merveilles, on est dans de la pure fantasy. Donc, rien à voir avec le modèle du genre, hein, donc Civilisation de Sid Meier.
C'est vraiment ça. Moi, je pensais que les 4X, ça n'existait que dans des trucs genre, oui, bah, Civilisation, jouer Gandhi qui développe l'art nucléaire, tout ça, c'est marrant. Là, c'est juste, c'est des dragons, des elfes, des fées, des triandes, tout ça. C'est vraiment Civilisation dans, alors je schématise, mais le Seigneur des Anneaux, hein, c'est ça le jeu. Enfin, Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons.
Tu as raison, un mélange des deux. Donjons, Dragons, Seigneurs Anneaux, en tout cas. Moi, en l'allumant, j'avais quand même un peu d'appréhension parce que je ne connaissais pas la licence. Paradox, donc le studio suédois, si je ne me trompe pas, qui le lance, est réputé pour des jeux dense, fouillés, dans lesquels il faut du temps en fait, pour s'y mettre, et complexe, subtil. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il y a les elfes un peu classiques, enfin on a tout le panthéon qu'on connaît par cœur de la fantasy et de la high fantasy. Je me suis dit, tiens, bon, pour la millième fois, je vais jouer les gobelins ou les orques et tout. Et qu'est-ce que ça va apporter à un 4X, à part de la magie et des effets un petit peu... et de magie élémentaire. Et en fait, j'ai été très très agréablement surpris par ce que ça apportait au 4X. Vraiment. Ce qui m'a hyper agréablement surpris, c'est que je suis à un moment où j'ai fait plusieurs articles sur comment les règles du 4X sont un peu héritées d'une certaine époque un peu révolue du jeu vidéo. Donc, qui ont pour but, en gros, qui se basent sur la colonisation d'espace, sur la construction, sur la vision d'un grand dirigeant éclairé. Donc, on incarne, par exemple, César, qui va mener toute une nation, ou Gandhi, pendant des siècles. Donc, il y a une vision ludique. Sur le côté ludique, jeu vidéo, c'est très intéressant. C'est des concepts qui marchent, mais... Quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on se dit bah, on ne peut pas vraiment enseigner l'histoire avec des 4X. Hein, parce que... oui. et même, il y a une perspective. Là, j'ai fait récemment un sujet sur les jeux de gestion, de city building et de 4X et l'environnement. Et c'est toujours dans une perspective de il faut s'étendre, il faut détruire l'environnement. Enfin, voilà. C'est des choses assez intéressantes, je trouve, comme concept. Ça ne veut pas dire que ces jeux ne sont pas bien, au contraire. Moi, ça me fait vachement réfléchir à ça et je les prends sous leur argument critique et j'adore bétonner tout dans SimCity. Enfin, il n'y a aucun problème, j'ai conscience que je bétonne, mais en même temps, il y a une dissonance cognitive aussi, voilà. J'ai plus cette magie un peu naïve que j'avais quand je découvrais Civilization 3, quand j'avais une quinzaine d'années. Et donc... toutes ces questions-là qui s'agitent un petit peu et qui étaient déjà présentes dans Humankind, hein, parce qu'il y avait une volonté de faire un jeu un peu plus humaniste où on est un peu moins sur la force militaire brute, enfin des choses bien, bah là, avec les elfes, les orques, toutes les races qu'on nous propose, tout ça, c'est remis à plat. On est vraiment dans une autre vision des choses et en fait, ça libère un peu l'esprit. Je trouve que c'est marrant, ça offre d'autres perspectives plutôt que de se dire putain ça y est j'arrive à l'âge industriel je vais devoir gérer mon CO2 et à mais côté coup, ça, voilà je,
ça, ouais, ça se passe comment du coup monde, c'est quoi les différents âges la technologie, la modernité dans un truc d'heroic fantasy parce que tu développes ta magie tu...
ah oui on n'a pas de pouvoir nucléaire donc voilà, là, c'était une petite introduction, peut-être un peu longue, mais au moins, on reparlera. Il y a plein de choses à dire hein, sur ce genre de 4X bizarre où, en fait, on va remplacer le cheminement de l'humanité et des grandes nations par des orques, des elfes et de la magie. Donc, je vais peut-être reprendre, en fait, ouais, au début. Comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce qu'on avance sur les âges? C'est notamment avec des gros grimoires on appelle des tomes de magie, et en fait, qui vont nous permettre d'avancer un peu comme sur l'arbre technologique, hein, si je prends toujours l'analogie avec l'indicatrice habituelle. Et ensuite, on va avoir, donc ça c'est une première façon d'évoluer, une deuxième façon d'évoluer qui sont sur un arbre, qui ressemble en fait plutôt à une sorte de grosse pieuvre. Donc vous imaginez une pieuvre avec ses tentacules, et sur chaque tentacule, il y a entre guillemets un trait de notre j'aime pas en anglais j'utilise beaucoup le mot race mais ouais notre civilisation on va dire ça.
Il parle de race ou de race dans le sens race oui
mais anglo-saxon mais en français c'est un peu compliqué.
Bien sûr
ouais,
on comprend ce que tu dis.
Notre civilisation et donc par exemple pour être très concret si on prend des gobelins on va avoir des affinités qui vont être plutôt vers le chaos. On va avoir, on peut aussi les orienter et on peut par exemple, est-ce que vous, on peut aussi les, en fonction du grimoires magiques, donc du tome magique qu'on a pris, on peut aussi leur donner des spécificités qui vont aller, on va dire, de la magie, de l'ordre de la magie mystique. Donc ça, c'est une autre branche. Et au fur et à mesure où on avance sur cet arbre technologique, ça va accélérer, la partie. Mmh. Donc ça, c'est pour la progression. Hop, si vous me permettez un peu, je vais revenir au début sur un des trucs aussi qui fait, pour bien expliquer un petit peu ce qu'est ce jeu qui est pas facile à appréhender, c'est ce qu'il apporte au 4X, je trouve, et qui, moi, m'a beaucoup plu, et qui fait qu'en fait, au début, j'étais vraiment pris, c'est la personnalisation. Comme tu m'as dit, Le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, l'univers, c'est clair, visuellement, il ressemble à ça. Et donc je me suis dit, tiens, on va encore avoir les elfes qui flottent un peu dans l'air et qui ont des pouvoirs mystiques et tout ça. Enfin, les archétypes. Et ces archétypes-là, ils sont un peu fatigués, quoi. Moi, je trouve. Mmh.
Je ne te donnerai pas tort sur ce point.
Voilà, qu'on ait aimé ou pas la série du Seigneur des Anneaux, par exemple, de Amazon. Quand on la met en contrepoint avec la Dark Fantasy de Game of Thrones, enfin House of Dragon, on voit à quel point les choses ont, le regard sur la fantasy a changé, quoi. On l'a travaillé d'une façon un petit peu vers la nuance, vers d'un côté sombre pour House of Dragon, mais où le côté de la fantasy des années 50, de la roue du temps, mais ce sont des livres que j'aime beaucoup, quoi, du Seigneur des Anneaux, qui est un chef-d'œuvre absolu. Mais aujourd'hui, voilà, les choses ont bougé. Et donc j'avais un peu peur que le jeu soit encore dans une ambiance très 90s, très Warcraft, en fait, en mode 4X. Mmh. Et en fait, la personnalisation va à l'encontre de ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'on peut lancer une partie rapide avec des races stéréotypées, enfin des civilisations stéréotypées, et pour avoir une prise en main assez facile. Mais en fait, le mode le plus intéressant, c'est quand même de créer sa propre civilisation, et on a des perspectives assez dingues. Mmh. C'est-à-dire, si vous décidez de faire, je reprends l'exemple des gobelins, si vous décidez de faire des gobelins qui ont, je ne sais pas, une affinité avec, je prends au hasard, mais la production de nourriture, voilà, alors que c'est plutôt, en général, on fait des jeux de horde avec des gobelins très portés sur la puissance militaire. Bon, au contraire, non, on peut définir très très précisément les caractéristiques des civilisations et les mélanger entre eux. Mmh. Entre elles, c'est-à-dire faire une sorte de mash-up. Et donc, dès le début, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de paramètres très intéressants qui fait qu'on peut prendre différentes bases de jeu. Donc voilà, je parlais des gobelins, ou moi j'ai joué aussi des nécromanciens pour des choses assez sombres, mais il y a aussi des elfes, des humains, des nains. Et ensuite, une fois qu'on est sur cette base-là, on va la travailler avec des styles de jeu assez variés qui peuvent parfois être contre-intuitifs. Et ça, c'est cool parce que ça fait marcher l'imagination. C'est-à-dire qu'on peut faire des nécromanciens plutôt basés vers l'ordre, même si c'est un peu contradictoire, mais c'est tout à fait possible. On peut pousser les choses assez loin. On peut faire, des gobelins qui sont très très attachés avec un... avec des pouvoirs, je dis à la magie, alors que c'est pas ce qu'on voit forcément en général. On peut donc avoir des approches assez fortes, et d'autant plus fortes qu'une fois qu'on a choisi donc notre civilisation, on peut ensuite lui donner des traits, et ça c'est très intéressant. On peut pousser ça en donnant à la fois des habitudes, de culture. Donc la culture d'un peuple, et ça, en fait, ça va beaucoup jouer sur la diplomatie. Mmh. Ça va donner des bonus, ça va jouer sur la diplomatie. Donc pour résumer ce que j'ai dit, c'est qu'on a plusieurs phases de personnalisation de sa faction. Dès le début, on a au moins 4 ou 5. On a la civilisation, on a ses différentes appétences, on a sa culture. Après, on va faire le design de son champion. C'est-à-dire qu'on va avoir donc un leader Et le leader, on peut entièrement le personnaliser. Si par exemple je joue des orques, je peux tout à fait avoir un leader elfe, par exemple. On imagine, tiens, c'est un... Ou un humain, on imagine un Saruman qui prend le contrôle des orques. Et donc ça, en fait, c'est... pour le champion, ce que j'ai donné avant, c'est très, ça a une influence sur notre façon de jouer. Mais par contre, pour le champion, c'est vraiment de l'ordre de la... du fantasme, enfin de l'histoire qu'on va se raconter quand on joue. On va vraiment se dire, tiens, cet humain, c'est un Saruman, c'est un sorcier corrompu qui va maîtriser des orques, ok. Mais en fait, ça m'a reconnecté à des choses que j'adore dans la fantasy, à une certaine émerveillement qui a été émoussé par l'utilisation d'archétypes un peu usés, dont je parlais tout à l'heure. Ça a réveillé en moi, en fait, une sorte d'imagination.
Il y a un petit côté limite un peu du coup roleplay quoi, limite jeu de rôle où tu dis que tu incarnes un elfe dans ta partie de Donjons et Dragons, mais tu vas t'orienter en fait, orienter ton personnage là, sauf que là c'est à l'échelle de toute une civilisation quoi.
Exactement, tu peux aller jusqu'à designer tes montures. Et en fait, la fantasy, par essence, c'est ça quoi, c'est de fantasmer un monde imaginaire et de, en même temps, quand on lit un bouquin comme ça, de recueillir les fantasmes de quelqu'un sur un monde imaginaire. C'est pas juste de récupérer soit une franchise, parce qu'aujourd'hui, le monde de fantasy, c'est ça, c'est des franchises ou des franchises en devenir. C'est plutôt d'être émerveillé par l'arrivée d'un monde. Et donc, cette base-là, je trouve, est très intéressante parce qu'il connaît son public. Et on parlait de Donjons et Dragons, c'est aussi ça le jeu de rôle, quoi.
Bien sûr.
C'est de se projeter dans des mondes. Et là, du coup, il y a tout plein de clins d'œil qui sont en plus bien sentis. Avec, il y a des bêtes féroces un peu partout sur la map et tout ça. On va même, il y a des outils. Alors, j'ai pas trop poussé la création de niveau, mais bon, on va choisir, on peut aller jusqu'à choisir soi-même. Comment sera la map, alors c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt sur des îles, de la lave, des champs de neige et tout ça, ce qui pourra influer ensuite sur la partie et surtout la compliquer, hein. Est-ce qu'il y aura beaucoup de créatures sauvages, donc on est dans un degré de customisation qui est assez dingue et sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Là, je suis désolé si je vous envoie juste des données brutes sur la création de la partie, mais c'est un truc important dans le sens où ça fait rêver, quoi. Enfin, c'est ça qui crée, qui lance la machine.
C'est un résumé de l'impression du jeu qui est assez séduisante. Ça fait rêver. C'est presque, j'ai l'impression, un truc qui manque dans la manière dont on parle des jeux aujourd'hui. Et en voyant les images, en plus, il est super beau. Entre parenthèses, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Redfall, il est disponible sur PC et Xbox, évidemment. Celui-là, il est disponible partout. Quand je dis partout, c'est-à-dire PlayStation, Xbox, PC, pas Switch.
Pas Switch,
mais nouvelle génération uniquement, donc PS5 et Xbox Series. Ça se comprend parce qu'il est super beau. Et ça fait rêver. Rien qu'à le regarder, je me prends à rêver. Il y a toutes sortes de créatures différentes, des bâtiments avec une architecture particulière. Enfin, ça donne vraiment envie, quoi. J'ai une dernière question, peut-être. Tu y as joué sur PC ou sur console, ou enfin à la manette ou au clavier ? Parce que je suis curieux de savoir si ça marche bien à la manette.
Ah là là, je n'ai pas pensé une seule seconde à l'essayer à la manette. J'étais traumatisé par la version Switch de Civilization, qui n'est pas si mal, hein, mais désolé. Non, alors là-dessus, c'est une faute professionnelle grave.
Non, mais...
je m'en excuse. Absolument.
Là, non, mais t'as vu ce que tu fais, Patrick, tu devrais avoir honte.
Non, mais j'imagine qu'il fonctionne, puisqu'il est sur PlayStation et sur Xbox, mais écoute, ça me donne envie.
Je n'ai même pas résumé le jeu, en fait.
Je vais
parler de la création. Je vais faire très très vite parce qu'on peut en faire beaucoup. Donc, c'est un 4X. On exploite, on explore, on extermine. Et c'est quoi l'autre ?
Ah, je sais plus.
On extrait des ressources. Bon, voilà, on va gérer sa ville, on va gérer sa map. À la différence près, donc c'est assez classique, hein, ça ne révolutionne pas le genre du 4X quand on connaît Civilization.
Exploration, expansion, extermination, exploitation. Donc, tu les as.
Voilà.
Capitalisme.
C'est le grand.
Dans le monde magique. Donc là, on exploite. Il y a du mana. C'est rigolo, c'est plutôt bien. On envoie des sorts. Et il y a juste un truc donc, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un rapport à l'exploration qui est cool, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de bêtes sauvages à exterminer sur le chemin pour récupérer des butins. Donc il y a un petit côté donjon et dragon. Il y a un monde souterrain qui est hyper chouette. Et ma prochaine partie, ce sera avec les hommes taupes qui, a priori, sont encore meilleurs sous terre et où on fait de l'excavation. Il y a vraiment des... Voilà, il y a un panthéon de ouf. Mais en plus, oui, il y a des hommes crapauds, des hommes taupes, des hommes chats.
Que tu peux jouer en plus.
Attends, j'ai rencontré un pingouin-garou dans une de mes quêtes.
Donc, okay, mais t'aurais dû commencer avec c'est ça, bon, tout le monde. C'est bon, le jeu, là. C'est bon, pingouin-garou.
Alors, j'ai eu aussi... voilà, c'est pas non plus un jeu qui va révolutionner ça, mais qui apporte plein de choses et qui prend vraiment pas son public, qui connaît bien son public, en fait. Je veux dire qu'il prend pas pour un con, mais bon. C'est vraiment un jeu qui connaît son public, qui lui offre des bonnes choses. Et il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est des batailles. On peut faire de la résolution automatique, mais je trouve que l'IA, pour la résoudre, elle n'est pas... Bon, elle est pas, elle est bien,
hein, mais
bon, moi, j'ai réussi à renverser le cours de bataille. Et là, on est vraiment... Et ça m'a rappelé à quel point aussi je veux me refaire des Total War. Ça m'a rappelé Total War Warhammer, des jeux que j'aime beaucoup. Et voilà, là, c'est un peu moins joli quand même quand on passe en mode bataille. Mais c'est cool, on a des batailles rangées, on s'envoie des sorts, on bouge ses unités, on exploite le terrain, on s'envoie des sorts. Et ça, c'est plutôt cool. Et l'autre truc, c'est la diplomatie. Voilà, il y a un jeu diplomatique assez intéressant, et là, l'IA est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on va partager des traits de civilisation avec certaines personnes. Donc, hier encore, j'étais sur une partie, donc ma partie gobelin magie, et j'ai rencontré d'autres gobelins qui étaient mes voisins, je les ai rencontrés très vite, et tout de suite, en fait, on a fait une alliance, et ça a accéléré mon jeu de façon assez, assez intéressante. Et en retour, voilà, quand j'étais sur d'autres parties, tout de suite, quand on est avec des gens qui ne partagent pas les mêmes traits que nous, ça devient intéressant à négocier et encore plus dur à avoir la paix. Enfin, là, il y a tous ces aspects qui sont, je trouve, assez intéressants, mais qu'il faut bien avoir en tête, parce que les qualités d'un 4X pour moi sont souvent les défauts pour les autres. Quand je dis c'est un jeu avec plein de règles, il y a des gens qui font « Oh non, c'est un jeu avec plein de règles !» Alors, pour moi, c'est cool. C'est un jeu avec les parties longues, c'est cool. Il y a plein de gens qui font « Oh non, c'est un jeu avec des parties longues !» Enfin, voilà, on peut...
Mais
on
te moque pas de moi, hein, s'il te plaît. Hein.
tu me parles un petit peu, là, directement aussi, Pierre. Donc, ok.
Donc, voilà, je préfère au moins avertir là-dessus.
D'accord, super. Donc, c'est Age of Wonders 4 qui est disponible dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce petit moment de rêve sur ce jeu, Pierre. On va laisser de côté peut-être Burning Shores, Thomas, ou si tu veux nous dire un mot dessus, on peut. Mais je suis curieux de t'entendre en quelques minutes nous parler de Strayed Lights. Parce que c'est un jeu dont j'ai un petit peu entendu parler, dont j'en parle comme genre un Reverse Dark Souls ou un jeu, j'ai pas bien compris. Donc je suis curieux. De quoi s'agit-il?
Oui, on peut effectivement laisser passer Burning Shores. Je fais un mot hyper court dessus. Genre, si vous avez aimé Forbidden West, donc c'est DLC, pardon, un petit contexte rapidement, hein, c'est un DLC de Horizon Forbidden West qui est sorti l'année dernière. C'est un DLC, tout ce qu'il y a de plus DLC, mais tout ce qu'il y a de plus efficace, si vous avez aimé. Donc voilà, ça prolonge très très bien l'aventure. Il y a un nouveau pan narratif qui s'ouvre, une nouvelle zone de jeu qui est vraiment très cool. Voilà, donc très très efficace.
Sur PS5 uniquement, pas sur PS4.
Oui, par contre, c'est une exclu PS5.
On en a plein les mirettes.
PS5. Ouais, grave. Moi, limite un peu trop. J'étais presque. Ça scintille. Ça. Il y a une luxuriance un peu folle, des couleurs de partout. Au début, j'étais presque. Voilà, parce qu'en ce moment, moi, je fais un peu de. Je joue à des vieux trucs pour un projet top secret. Et du coup, j'avais pas fait de netgen depuis un paquet de temps. Et là, je me le suis pris en plein dans les mirettes. Et c'était presque un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est bon. Ça, un jeu en 60 FPS avec plein de trucs qui bougent partout. D'accord. Mais c'est vraiment bien. Très très cool, et c'est vraiment une saga qui devient de plus en plus intéressante, je trouve, au fil du temps. Donc c'est très chouette. Strayed Lights, le pauvre petit jeu indépendant qui sort comme ça au milieu du champ de bataille des ogres triple A et de cette guerre qui commence là. C'est triste, et oui, je voulais en parler aussi parce que c'est vraiment dommage qu'il passe. J'ai l'impression qu'il passe sous les radars.
Ah oui,
parce qu'il sort vraiment à un moment pas cool du tout. Après, bah, voilà, c'est des impératifs. D'ailleurs, plus tu vas attendre, plus tu vas sortir dans un moment qui va pas. Donc, il fallait le sortir, j'imagine. C'est un jeu français qui est fait par le studio Embers, qui est basé, je crois, à Strasbourg. Et c'est un jeu qui est assez étonnant, je trouve, parce que il a vraiment deux facettes. Il a un côté très cool, exploration. Ça fait un peu penser à Journey. La DA au départ, elle fait un peu penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce studio, la Zwink, le studio suédois là qui avait fait le jeu avec le dragon, la fée, et puis qui avait fait Lost in Randoms il y a quelques années chez Electronic Arts, avec ce côté, une DA très, très, très colorée, des couleurs violacées, roses, qui va dans le fuchsia, enfin, qui va vraiment dans une palette très... très vivifiante. Donc, il y a un côté très contemplatif, en fait, parce qu'on est dans des décors gigantesques. J'ai presque envie d'invoquer Journey dans l'idée. Je l'invoque avec d'autant plus de d'enthousiasme que, petite parenthèse, la musique est composée par Monsieur Sir Austin Wintory, s'il vous plaît, qui est donc le compositeur de Journey, qui est aussi le compositeur de la meilleure OST d'un Assassin's Creed ever, celle de Syndicate, qui est incroyable. Il a fait un travail fabuleux. Oui, Abzu et Banner Saga, évidemment. Donc voilà, rien que pour la musique, on y va parce qu'elle est très très belle. Et donc il y a ce côté voilà très contemplatif, on a l'impression d'être dans le Journey, et puis tout à coup, il y a un combat, et là, on fait « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Reverse Dark Souls, c'est pas si bête. En fait, je comprends carrément la comparaison. On est sur un jeu où, en fait, la meilleure attaque, c'est la parade, globalement. C'est-à-dire que, déjà, notre héros, il peut passer... Il a deux couleurs, en fait. En cliquant sur un bouton, il devient bleu ou orange. Il y a ce côté un peu Ikaruga, là, je sais pas si vous vous souvenez de ce shoot'em up un peu fou de l'époque Dreamcast. Il y avait Outland aussi de Housemarque qui avait fait un jeu un peu sur ce principe de passer sur la bonne couleur, la même que l'ennemi, pour pouvoir l'attaquer ou se défendre comme il faut. Et donc, tout se joue sur la parade dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être dans la bonne couleur, dans la même couleur que celle de l'ennemi au moment où il va attaquer, sachant que parfois il attaque bleu, parfois il attaque orange. Donc, il faut déjà avoir ce petit réflexe-là et parer au bon moment. Quand on part au bon moment avec la bonne couleur, on regagne de la vie, et en plus on fait monter une petite jauge qui, quand elle est pleine, déclenche une super attaque qui permet vraiment de prendre l'ascendant sur son assaillant. Si jamais on n'est pas dans la bonne couleur, juste on regagne pas de vie. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça, c'est pas pénalisant, mais ça permet voilà, de donner un bonus en termes de vie quand on vise vraiment bien. Donc il y a limite un côté jeu de rythme. Clairement, en fait, entre parer au bon moment, mettre la bonne couleur au bon moment, ça demande d'avoir des réflexes et de retenir des patterns d'attaque qui font vraiment penser à un jeu de rythme. Et j'ai trouvé ça hyper malin, ça passe super bien, les animations sont fluides, on arrive bien à lire les mouvements des ennemis. Et donc, on a cette dichotomie qui paraît vraiment hyper paradoxal au départ, parce qu'on a un jeu de combat hyper exigeant, et à côté de ça, de l'exploration très contemplative et tout, on se dit, ouais, où est-ce qu'on va? Et franchement, les deux, en fait, se marient étrangement bien, parce qu'après un combat complètement dingue, on était là, attends, je suis orange, attends, il faut que je clique, ah, je parle, machin, et ben tout à coup, ta récompense, en fait, c'est d'aller te promener dans un univers onirique complètement dingue.
C'est vraiment beau, hein, donc je peux tout à fait imaginer... Ouais, franchement. Que le fait d'explorer et de se balader soit un plaisir en soi, quoi.
Carrément, carrément. Mais, mais prudence, voilà, y allez pas en disant « Ouais, super, je vais surfer dans des dunes de sable avec ma petite écharpe, ça va être trop bien. » Non, non, tu vas te faire marave par le premier boss de menu. Méfiance. Mais d'accord. Vraiment très cool. Franchement, il y a très, très intéressant. Et je crois que Ember, c'est déjà sur un nouveau projet. Donc j'espère qu'ils sortiront pas avant un Zelda 3 et puis je ne sais pas quoi. Donc courage à eux, mais vraiment un studio à suivre parce que quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire là, ça donne il y a du talent dans cette équipe là, c'est cool.
Et c'est un jeu qui est dispo sur toutes les plateformes, y compris surtout la Switch pour le coup.
24,99€.
Il est tellement beau, je ne sais pas si on le recommanderait sur Switch. Je crois que. Non.
Mais il doit passer bien parce que il a cette intelligence des jeux qui ont ces textures un peu low poly, un peu voilà plus donc ça doit passer correctement. Mais je pense que la fluidité d'image doit être assez importante par rapport au combat, par contre.
25 boules, donc c'est pas très très cher. Ouais. Age of Wonders, on l'a pas dit, mais il coûte 50 euros, donc c'est aussi pas un jeu full price.
Par contre, il est un peu court, donc voilà. D'accord. Mais c'est très sympa.
À savoir.
Team Deck, je ne sais pas, désolé, la crème de la flemme, oui, peut-être. Si il tourne sur Switch, il est. Faut envoyer un mail à JK, écoute, je ne vois que ça.
Et on va passer à la dernière partie de notre émission, une fois que Siri se sera tue.
Ouais, toi aussi, tu te fais avoir des fois.
Et oui, ça m'arrive. Quelques news supplémentaires. Alors d'abord, Zelda Tears of the Kingdom a leaké, donc faites attention à vous sur les réseaux sociaux. Mais surtout, Nintendo sera à la Gamescom 2023 pour la première fois depuis des années. Est-ce que ça veut dire qu'ils auront un truc surprise à présenter, genre la Super Switch, par exemple?
Une nouvelle console
en juin? Bon, sans doute pas, mais on peut se prendre à en rêver. Fortnite sera disponible pour tout le monde par Amazon Luna, leur service de streaming aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, pas encore en France. Mais c'est marrant de voir que Luna prend de la force au moment où les décisions de la CMA en Angleterre sont basées sur l'omnipuissance de Microsoft dans le domaine de du cloud.
Du cloud gaming, oui.
On a eu encore des infos sur Street Fighter 6. Je finirai par vous faire un truc spécial pour tout vous expliquer sur Street 6. Peut-être que, je sais pas, genre la semaine prochaine, je ferai un petit peu de streaming surprise lundi après-midi ou mercredi après-midi, juste pour parler de Street Fighter 6, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants.
Vide ton sac, Patrick. Comme Destiny, il y avait un moment, il fallait que les vannes lâchent.
Ça, exactement. Et là, c'est pareil sur Street. J'ai fait un salon dans le Discord, un sujet de forum sur Street 6. Hier, il y a une personne qui l'a rejoint. Je vais t'écouter. Mais il y a plein de trucs intéressants pour les gens, justement, qui ne sont
doute.
Pas déjà des fans.
Oui, mais évidemment, mais tout le monde le sait, c'est sûr. Tu n'es pas seul.
Oui, merci. Armored Core 6, on a une petite vidéo de gameplay. Alors, je me sens un petit peu obligé de la mentionner, sinon je vais me faire engueuler. C'est ce genre de truc, mais moi, ça me... Enfin, bon, bref. Armored Core, il y a des fans. Je n'en fais pas forcément partie. Peut-être que le 6 me convertira. Au regard du gameplay, ce truc de mecha en troisième personne de From Software, ça n'a pas l'air d'être mon truc, mais ça rend des gens heureux, donc très bien. Quoi d'autre ? Il y a un nouveau jeu League of Legends, enfin Riot, qui s'appelle Convergence, où on joue Echo, The Boy Who Broke Time, qui est celui, peut-être, le jeu Riot Forge qui m'intéresse le moins de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'il sera très bien. Où on joue donc Echo qui revient dans le temps, il y en a deux et on va jouer avec ce genre de truc, pourquoi pas. Inspecteur Gadget chez Microïds, mais ils font la tournée des...
Ils sont en boucle avec les VHS de Récré à 2 du Club Dorothée, et puis ils sont
Récré à 2
les gars, c'est quoi le prochain jeu qu'on fait là? Oh là qui voit là.
C'est ça.
Lady Oscar.
Lequel, Pierre?
Ils vont faire Lady Oscar bientôt, non? Non, c'est...
Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est exactement le genre de truc qui pourrait...
Moi, je veux les mystérieuses cités d'or, les gars.
Voilà. Il y aurait effectivement le public.
Il y aurait tellement un truc de ouf à faire dessus. Il y aurait tellement un truc de ouf.
Tu sais, les
déjà, Tintin, je suis curieux. Hein.
Pardon?
Tintin en jeu vidéo bientôt. Mmh. C'est intéressant quand même.
Tout à fait. Mortal Kombat 12. Et a été vaguement teasé, peut-être qu'il sera annoncé à l'E3, c'est possible, ça va vraiment être l'année ou les deux ans des jeux de combat, là. Street Fighter 6, est-ce que je vous ai parlé de Street Fighter 6, déjà?
Non, mais on est déjà au sixième épisode de cette série, ça s'est pas fini au 2, ça,
et tu as dit l'E3 aussi, hein. Désolé, mais...
L'E3, ah bah oui, non mais même, je veux dire, le 5, bon. Et le Alpha. Je veux dire, on parle de Post 2, Street Fighter Alpha, je suis, moi, assez client. On va faire l'impasse sur l'étude sur le sexisme et le jeu vidéo et la petite controverse avec Samuel Etienne. Parce que, simplement, on n'a plus de temps. Et puis, franchement, la leçon, c'est que, il y a encore du sexisme dans le jeu vidéo, vraiment. Mais en même temps, il y a des gens qui le découvrent et c'est bien qu'ils le découvrent aussi. Je veux dire, on est tous à la fronde. Ouais,
non, mais c'est bien de remettre les gens quand même dans le nez dedans, quand même, de temps en temps.
Bah, voilà, c'est
parce que voilà, la situation reste quand même insupportable, quoi.
On le dit.
Après, il faut lire l'étude.
Ouais,
l'étude. On l'a eu en entière un peu avant, et toute la dernière partie sur les stratégies d'évitement. Voilà, moi, étant un joueur homme, n'ayant pas eu ces problèmes-là, je trouve ça très intéressant de donner les proportions.
On se rend pas compte,
40% des joueuses en ligne qui ont des stratégies d'évitement, qui coupent leur micro, qui font croire qu'ils donnent pas leur genre, ou qui même des fois cachent leur genre, c'est quand même énorme, quoi.
Ce que je voulais dire, c'est la petite histoire avec le stream de Samuel Etienne, qui était... Le truc, c'est que, ok, bon, alors, j'ai regardé une partie du stream, et ils font partie... Alors, les joueurs, c'est une chose, mais la génération de Samuel Etienne, qui est pas si loin de la mienne, qui est même pile de la mienne, mais c'est pas des gens qui sont confrontés à ces sujets régulièrement, et qui en parlent un petit peu comme on en parlait il y a 5 ou 10 ans, nous. Et ça frustre certaines personnes qui sont en plein dedans depuis longtemps... Mais c'est bien que ces gens-là le comprennent et le découvrent aussi. Alors nous, c'est frustrant parce qu'on dit « Oui, alors on parle encore de jeux vidéo et de sexisme comme si on le découvrait. » Et c'est vrai que ça peut être frustrant. Mais pour que ça atteigne les recoins de la société qui ne sont pas directement concernés par ces sujets-là, il faut que ça passe aussi par des vecteurs comme celui de Samuel Etienne qui débarque sur Twitch il y a quoi, il y a un an. Enfin, c'est pas son monde à lui. Et donc, c'est important. Et forcément, ils en parlent de manière un petit peu différente, de manière... Donc, je n'ai pas vu tout son stream, mais oui, l'étude en elle-même, il y a des choses, des données intéressantes qui ne révolutionnent pas notre compréhension du sujet, ni nos avis sur le sujet, je pense. Mais oui, il y a des sujets, il y a des données hyper intéressantes là-dessus aussi, quoi. C'est pour GamerTop qu'elle a été réalisée.
C'est pas Samuel Etienne qui a sorti l'étude, hein. C'est une étude IFOP sur un échantillon de 5000 personnes qui a été en plus sortie dans plusieurs médias. C'est là juste, bah, en gros, la table ronde, quoi, qui a fait bondir tout le monde.
La table ronde, alors c'est marrant parce que...
La table ronde de France, de Samuel Etienne plutôt.
De Samuel Etienne qui parlait du sujet, voilà. Qui était un sujet... Bon bref, on va pas... Et ils étaient 5 mecs, il se trouve qu'on est 3 mecs pour en parler aujourd'hui aussi, mais bon.
Oui.
Et allez voir l'étude donc sur gamertop.fr qui est une étude IFOP, donc c'est une étude très sérieuse. Voilà. Mais on pourrait en parler plus longuement, évidemment. Je conclurai avec ce jeu Zelda. Allez, un petit truc marrant pour finir. Vous vous souvenez de la CDI de Philips? Eh bien, il y a eu des jeux Zelda sur la CDI dans les années 90 qui ont sombré dans l'oubli. Ils étaient faits par Philips, ils étaient lamentables. Eh bien, il y a un développeur qui a recréé le pire de ces jeux, mais en version Game Boy. Qui est disponible sur Game Boy, vous pouvez aller télécharger, je pense que c'est sur Itch.io, oui voilà, sur Itch.io, c'est John Lay qui l'a refait sur Game Boy, et je trouve ça absolument adorable, donc je voulais le mentionner, il s'appelle Zelda's Adventure.
T'as oublié une news hyper importante, Patrick.
On doit laisser partir
déçu.
Pierre, donc...
Alors je la fais juste vite, parce que bah, de toute façon on arrive, je pense, à la fin, c'est Chia, 1 million d'exemplaires de ventes. 1 million de Chia. Et du coup, sorti en physique le 18 juillet prochain. Voilà. Voilà. Le Gauthier est là.
C'est Thomas qui est heureux. Il va pouvoir acheter son Chia.
Je fais mon lobbying à WhatsApp.
Très bien. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Pierre d'avoir été avec moi dans cet épisode extrêmement agité, mais tout aussi agréable. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver quand vous êtes sur Internet? Alors Pierre, je vais le faire parce que vous êtes pressé. Le Monde et Pierre 3D sur Twitter, pour Pierre. Et
Rubrique Pixel, au Monde.
Rubrique Pixel, tout
plus précisément.
Et Thomas, Amaebi sur Twitter, sur Spotify, Thomas Merreur, dans Numérama, pour les tests, on a hâte de lire celui de...
Et
ah mais oui, j'oublie Jeux Vidéo Magazine.
Eh ouais, et en couve en plus, parce que je suis responsable avec Raphaël du dossier sur Assassin's Creed pour bien se préparer avant la sortie de Mirage. Donc on a fait un énorme papier qui retrace toute la saga avec des interviews des développeurs hyper complet. Et puis bah, moi, gros kiff, ma première parution dans un magazine, être en couve et tout, c'est voilà, super content.
Félicitations.
Jeux Vidéo Magazine en kiosque, c'est le numéro de mai.
Très bien, on fait un petit... attends. Merci à tous les deux. Pour moi, c'est notre Patrick un petit peu partout. Les liens dans les notes de l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.